Alors, à vous entendre chanter comme ça ce matin, et surtout ce dernier chant, soit un certain nombre de personnes ont raison, et puis vous êtes une bande d'illuminés. Non, mais ça existe, hein. Ça existe. Soit alors, effectivement, le Dieu que nous adorons et pour lequel nous nous rassemblons est un Dieu vivant et qui nous vivifie. Et j'opterais plutôt pour la seconde. Ah, c'est pas un jugement que je passe, hein. Non, mais effectivement, on peut, lorsqu'on a un bon groupe de musiciens et de bonnes personnes qui nous conduisent, être emballé par l'ambiance. Mais je pense que lorsque je vous écoutais chanter, que je chantais avec vous ce dernier chant, encore une fois, je me dis, la personne autour de laquelle nous nous rassemblons le dimanche matin est effectivement quelqu'un qui est présent et qui est vivant, et avec qui nous avons une relation, et qui nous donne la joie et l'envie de chanter ensemble. Et pour ça, j'aimerais encore remercier le groupe de louanges de nous l'avoir rappelé ce matin. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais avec vous ce matin méditer un texte qui est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 14, et je demanderai à Clément de l'afficher, et je le lirai avec vous. Au chapitre 14, le Seigneur, qui est avec ses disciples au moment de la Pâque, leur dit à un moment que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Mais maintenant je vais préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. » Ce texte se trouve dans une section de l'évangile de Jean qui commence au chapitre 12 et qui va jusqu'au chapitre 17 et qui est toute cette, la fin du ministère de Jésus au moment où il arrive à Jérusalem. Et en fait, si vous lisez tous ces textes d'une seule traite, c'est des textes qui sont extrêmement denses, mais extrêmement lourds et chargés. Et en fait, je me dis certainement que ça devait être la Pâque la plus troublée ou la plus troublante pour les disciples qu'ils avaient jamais vécu et mangé. Même celle dans les années précédentes avec Jésus, ça devait être encore relativement cool, relativement sympa. On célébrait la sortie d'Égypte. Mais là, on arrive au moment où Jésus dit, ça y est, ce moment est arrivé où ça va péter. Tout ce pourquoi je suis venu, tout ce que j'ai enseigné va arriver à son point culminant dans les quelques jours qui viennent. Et je suis sûr que les disciples, ça devait énormément les troubler, ils devaient regarder. D'abord, ils sont arrivés à Jérusalem et tout le monde disait « Hosanna, Hosanna, bienvenue, le roi », etc. Et tout. Ils disaient « Ça y est, on a bien fait de croire en lui, c'est le Messie qui arrive pour délivrer Israël, il va prendre son règne à Jérusalem, ça va être quelque chose de magnifique ». Et puis quelques heures plus tard, c'est en fait de nouveau une opposition avec les responsables religieux. Et là, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus pesant. Et puis après, on se retrouve dans la chambre haute, et puis là, de nouveau, on chante les cantiques, c'est la fête, on a l'habitude, comme nous, on fête Noël ou Pâques, etc. et tout. C'est la joie, on est entre copains, entre amis et tout ça. Puis Jésus, il dit, mais vous savez, il y en a un parmi vous qui va me trahir. Et puis là, on sent de nouveau, ça tombe, l'ambiance, et puis ils se regardent tous et ils se disent, mais qui, comment, pourquoi? Et alors ils sont tellement troublés qu'il y en a un qui dit, mais moi, Pierre, Seigneur, de toute façon, moi j'irai avec toi jusqu'au bout. Et il reprend son courage à deux mains, et certainement d'autres disciples avec lui disent, Seigneur, tu sais, nous on restera près de toi et on ira jusqu'au bout avec toi. Et ce n'est pas quelques pharisiens et quelques romains qui vont... Et puis Jésus de regarder Pierre et puis de lui dire, mais tu sais Pierre, avant que le coq ne chante trois fois, toi tu m'auras renié. Un vrai super 8, un vrai, pas un super 8, un vrai 8, grand 8, merci. On coupera ça au montage, hein. Un grand 8, où pendant quelques heures, quelques jours, les émotions des disciples montent et descendent et ils ne savent plus où tourner de la tête. Et Jésus arrive là au début du chapitre 14 et il leur dit une chose, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Avec tout ce que vous voyez, avec tout ce que vous avez entendu, avec les émotions qui se mélangent, avec les incertitudes que vous avez, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Parce que ce que j'ai commencé, je vais le terminer et en fait je vais vous préparer une place et après cela je reviendrai vous chercher. Et Jésus les assure encore une fois en disant, au milieu de toutes ces circonstances, que votre cœur ne se trouble pas. Et sachez une chose, c'est que personne ne m'arrêtera dans ce que j'ai commencé et je vais aller jusqu'au bout, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher et nous serons pour toujours ensemble. Et ici, nous avons encore une illustration de ce que nous avons traité dans toute cette série sur les promesses. C'est qu'en même temps que le Seigneur nous promet des choses bien concrètes, comme ici il dit « je vais vous préparer une place », en même temps il faut aller beaucoup plus loin que cela et tout simplement dire « il faut aussi que vous croyiez ma parole, même si vous ne voyez pas, et que votre cœur ne se trouble pas. Et je vous donnerai mon esprit pour qu'en vous il crée la paix et vous donne cette sérénité. » Et c'est ce que le Seigneur a voulu créer dans la vie de ses disciples. Il dit, ça va barder, ça va chauffer, vous n'allez rien comprendre. Vous-même, vous allez être pris dans cette tourmente. Mais j'ai prié pour que le diable, en fait, n'arrive pas à vous vaincre. Et en même temps, je vous exhorte que votre cœur ne se trouble pas. Parce que ce que j'ai commencé, je vais aller jusqu'au bout et le terminer. Nous avons à la fois les promesses que Dieu fait. Et un ingrédient qui est extrêmement important, c'est d'aller au-delà de ses promesses et de faire confiance, de mettre sa confiance dans celui qui dit ses promesses et de dire, même si les circonstances ne sont pas celles que je voudrais, je me pose et je te fais confiance. Mais où ce texte est très contemporain pour nous, où je trouve qu'il a une résonance tout à fait actuel pour nous, c'est ce qui va suivre. C'est la réaction de Thomas et de Philippe. Thomas, tout au long du ministère de Jésus, c'est celui qui quand même, il a besoin de voir. Il a besoin d'être convaincu par les arguments, il a besoin d'avoir un peu les faits devant lui. Et c'est certainement les miracles de Jésus et puis le comportement de Jésus qui a dû le convaincre. C'était quelqu'un de relativement rationnel puisque jusqu'au bout il dira « si je ne vois pas dans un sens la trace dans son côté ou le trou dans ses mains, je ne croirai pas qu'il est ressuscité ». Et Thomas, aux confins un petit peu du doute mais aussi de vouloir faire confiance, il dit à Jésus « on ne connaît pas le chemin. Comment est-ce qu'on pourrait te suivre? Montre-le-nous. » Et ici, nous avons ce verset que nous connaissons tous très bien, où Jésus dit, « le chemin, c'est moi. » Et même plus que le chemin. « Je suis aussi la vérité, je suis aussi la vie. » Alors nous, on a beaucoup utilisé, on utilise beaucoup ce verset, dans ce qu'on appelle l'apologétique. C'est-à-dire qu'on dit, « il n'y a que Jésus. Tous les autres, c'est des faux. » Et à chaque fois que nous récitons pour nous-mêmes ce verset, on pense à cette exclusivité de Jésus par rapport à tous les autres. Mais ici, le contexte dans lequel Jésus donne ce verset et dit cette parole, c'est pour dire « Thomas, toutes tes questions, ne se trouvent pas tellement répondues dans le fait que tu saurais quelles sont les réponses, mais elles sont répondues dans le fait que tu me fais confiance et que tu me connais. Ce n'est pas une opposition entre Jésus d'un côté et la raison de l'autre. C'est Jésus qui dit « la raison ne suffit pas, ce que tu pourrais savoir, ce que tu pourrais voir, ce que tu pourrais comprendre, c'est bien, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Si tu veux vraiment tout comprendre, si tu veux vraiment vivre pleinement, si tu veux connaître la vérité, ça se trouve non pas dans la quantité de ton savoir, mais ça se trouve dans la relation que tu as avec moi, Jésus. » Alors on a parfois le sentiment que Jésus botte en touche ici. Parce que Jésus, il n'a peut-être pas les réponses à tout, il ne pourrait peut-être pas tout expliquer, l'homme ne pourrait pas tout comprendre, donc il fait encore une fois de la poésie, puis il dit, en fait, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Mais ce n'est pas vrai. Tout le long de l'Écriture, on se rend compte que ce qu'il y a de plus important, de plus merveilleux, quel est l'appel le plus haut que le Seigneur nous adresse, c'est d'être en relation avec lui. C'est de le connaître comme un Dieu vivant. C'est de pouvoir dire, comme nous l'avons chanté, mais comme dit le psalmiste aussi, « Tu es mon Dieu ». Tu n'es pas simplement Dieu, tu n'es pas simplement quelqu'un à propos de qui je connais un certain nombre de choses, tu es mon Dieu. Nous sommes en relation l'un avec l'autre. Et ici, Jésus, en fait, cherche à faire écho à tout ce qu'il a vécu avec ses disciples pendant 3 ans, et il dit « Thomas, ce que tu as vécu avec moi, notre amitié, notre connaissance, notre communion, ce que tu sais de moi, c'est là que se trouve le chemin, c'est là que se trouve la vérité et c'est là que se trouve la vie. » Et Jésus est donc en train de dépasser tout ce que, en tant qu'homme, nous faisons généralement, c'est « explique-nous, une fois qu'on aura compris, on saura ». Et en fait, Jésus, il dit, mais attends, il y a encore beaucoup plus que cela. Il y a effectivement à vivre dans une relation qui va t'apporter une satisfaction dans tous les aspects de ta vie que tu ne peux pas imaginer. Ce n'est pas simplement relationnel en opposition à rationnel. C'est relationnel qui inclut le rationnel, qui inclut l'émotionnel, qui inclut tout ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et donc on peut raisonner avec Dieu et avec Jésus. On peut être émotionnel avec Jésus et avec Dieu. On peut être simple et ignorant dans notre relation avec Dieu. Tout cela peut exister dans cette relation avec Jésus. Et c'est là où, lorsque Thomas, à un moment, il dit « Moi, je veux bien comprendre, mais explique-moi. » Jésus, il dit « Peut-être il y a des choses que tu ne comprends pas maintenant et que tu ne peux pas nécessairement comprendre. » Mais ce n'est pas là le problème. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tant que tu resteras en moi, tant que tu resteras accroché à moi, tant que nous serons en relation, c'est là où tu trouveras ton épanouissement, ta satisfaction dans tous les aspects de ta propre vie, même intellectuelle et rationnelle. Jésus ne botte pas en touche. Jésus n'est pas en train de faire de l'apologétique ici. Est en train de dire « Toutes les autres religions, c'est rien, moi je suis le seul. » Il est en train de dire à ses disciples « Les gars, vous avez connu l'essentiel dans votre relation avec moi. Tenez à ça, parce que c'est plus grand encore, et plus complet, et plus riche que tout ce que vous pouvez imaginer. » Mais ça ne réside pas dans un corpus de choses que l'on croit, que l'on peut écrire, que l'on peut décrire. Cela réside dans la relation que nous avons l'un avec l'autre. Et s'ensuit alors quelque chose qui est en fait la raison principale pour laquelle j'ai voulu parler sur ce texte, c'est le commentaire de Philippe. Parce que Philippe, il est là, il entend ce que le Seigneur dit à Thomas, et où le Seigneur donne ce verset qui va marquer toute l'histoire de la chrétienté pour le reste des temps. Et Philippe, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mais Seigneur, attends, allez, montre-nous le Père, et ça nous suffira. Et on s'arrête là. On ne discutera plus. On n'argumentera plus. Mais il y a toujours au fond de nous, on veut voir le Père. Il y a encore des choses qu'on n'a pas vues, mais montre-nous le Père, et puis on s'arrêtera là, ça suffira. Et au verset 9, cette réaction de Jésus qui lui dit, et c'est là où peut-être ça prend toute son actualité pour nous, « Philippe, il y a si longtemps que nous sommes ensemble, et tu ne me connais pas. » Pourtant, Philippe était un des premiers disciples à avoir rejoint la bande des douze. Il n'a pas suivi simplement le mouvement. Hein. Il s'est levé, il a suivi le Seigneur. Et puis quand il y a Nathanaël, un des douze aussi, qui était sous un arbre comme ça et tout, il va le voir et il dit, viens Nathanaël, viens, viens, viens. On a trouvé Jésus qui vient de Nazareth. Et puis Nathanaël qui lui dit, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Et puis il lui dit, si, c'est le Messie que nous a promis Moïse. Philippe savait quelque chose. Il connaissait quelque chose à propos de Jésus, qui arrive à lui faire remonter tout l'Ancien Testament pour arriver à cette promesse initiale, ou pas initiale, mais une des promesses principales faites au peuple d'Israël, qui est « Je vous enverrai un prophète plus grand que Moïse. » Et pourtant, Philippe arrive là, après que le Seigneur a dit clairement à 12, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il dit « Seigneur, allez... montre-nous le Père et puis on s'arrêtera là. » Jésus est quelque part surpris et déçu. Alors, croyez-moi, je l'ai répété suffisamment et je le crois encore, Dieu est suffisamment grand pour que rien ne le scandalise dans nos vies ou dans la vie de qui que ce soit ou dans le monde dans lequel nous sommes. Rien. Boko Haram, non. Rien ne peut scandaliser Dieu. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il y a des moments où Dieu, parce qu'il est relationnel avec nous, peut être surpris et attristé. Et c'est le cas de Jésus ici. Il dit, Philippe, je pensais qu'on était des amis. Et 3 ans après, tu me dis, montre-nous le Père et ça nous suffira. Philippe, tu ne me connais pas. Et il va repartir dans une présentation où il va le dire, mais moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Vous avez tout ce que vous pourriez imaginer. Vous avez l'époux qui est avec vous. Et toi, Philippe, tu me dis qu'il te manque encore quelque chose, qui est de voir le Père. Mais quelque part, ce qu'il y a de plus grave encore dans le contexte de l'évangile de Jean, c'est que ce débat sur le Père et voir le Père, ce n'est pas la première fois que ça se pose lorsque Philippe lui pose la question. Toute la question de la relation entre Jésus et le Père, c'est un thème de l'apôtre Jean dans tout son évangile. Et plusieurs fois, les autres disciples aussi vont demander à Jésus, « Montre-nous le Père ». Les pharisiens, ils vont dire, « Montre-nous ton Père ». Et tout le long de son ministère, c'est un thème dans lequel Jésus va expliquer les choses pour peu à peu arriver à dire « Mais lorsque vous me voyez, lorsque vous savez qui je suis, vous connaissez le Père. Il n'y a rien de plus à vous présenter et à vous dire. Lorsque nous sommes en relation les uns avec les autres, c'est là où vous appréhendez et c'est là où vous êtes le plus proche du cœur du Père. » Et Philippe avait louper quelque chose? Ou alors est-ce qu'il l'avait tellement entendu qu'il l'avait oublié? Et moi, ce qui me frappe, c'est que dès lors que la relation à la vérité et à la vie et tout ça, c'est une relation personnelle, je sais que le temps, si on ne fait pas attention, peut être quelque chose qui peut peu à peu user ou détruire une relation. Et c'est pour ça que ce texte est actuel pour nous aujourd'hui. C'est que certains d'entre nous ont peut-être connu le Seigneur depuis des décennies. Moi, je pensais encore ce matin à 40 ans. Mais en 40 ans, est-ce que je me suis habitué que les choses se sont étiolées ? À quel point est-ce que je continue à cultiver une relation, non pas simplement une connaissance de l'Écriture et une connaissance dans ma tête de qui est le Seigneur et que je peux de mieux en mieux répondre, mais à quel point est-ce que j'ai cultivé cette relation pour que ma proximité avec le Seigneur et que ma connaissance d'une personne grandisse. Et je ne veux pas culpabiliser qui que ce soit aujourd'hui. Je dis simplement que le temps ne joue pas toujours en notre faveur si nous ne faisons pas attention. Et nous savons tous que dans nos relations interpersonnelles, et quelquefois, premièrement même dans les mariages, le temps peut jouer contre nous si nous ne faisons pas attention. Parce que nous nous laissons peu à peu aller. Nous ne veillons pas sur cette relation. Ou alors des circonstances ont été tellement contraires qu'on dit à l'autre, prouve-moi encore que tu m'aimes. Et le nombre de chrétiens avec qui j'ai parlé, qui quelquefois, avec le temps, ont vécu des choses de plus en plus difficiles, parce que c'est statistique, plus longtemps vous vivez, plus longtemps vous êtes exposé à des risques de vivre des choses difficiles, arrivent au point où ils disent, mais si seulement le Seigneur pouvait à un moment m'envoyer un petit signe pour me dire, je suis toujours là, t'as raison. Et où tellement de chrétiens, et parfois moi-même, on se résigne dans une situation en disant, très bien, ben attendons. Est-ce que nous avons toujours la même passion et le même feu pour notre Seigneur que nous l'avions au début? Et je crois que beaucoup d'entre nous, on dirait, ouais, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. On sait. On a fait le catéchisme, on connaît tous les articles de foi. On a appris des réponses à toutes les circonstances difficiles dans la vie. Et puis peu à peu, on s'installe dans quelque chose qui est plus un statu quo, qui est plus quelque chose qui existe, mais qui n'a plus tout à fait sa même ferveur. Et ça nous amène peut-être à des situations comme celle de Philippe, où à un moment, lui, il se prend les pieds dans le tapis par rapport à tout ce qu'il a pu dire et tout ça, puis il dit, allez Seigneur, ça a été suffisamment dur jusqu'à maintenant. Il y a encore des choses, mais montre-nous le Seigneur, puis on s'arrête là, ça suffira. Et c'est là où on oublie. C'est là où on oublie qu'une relation est quelque chose qui se cultive. On oublie qu'une relation, c'est quelque chose qui s'entretient au jour le jour, dans le dialogue, dans l'écoute. Dans le fait de se rendre des services, de se faire des gentillesses. Le fait de louer le Seigneur, c'est lui faire une gentillesse. C'est un moment de dire, Seigneur, pour aucune autre raison que simplement je t'aime et que ce que tu fais, je te dis merci. Et le Seigneur, lui, au quotidien, il veille sur nous dans sa providence et sa bonté et il nous fait des gentillesses constamment. Lui-même nous a donné sa parole, lui-même nous a envoyé son Fils qui est la meilleure manifestation de qui il est, la plus claire, la plus limpide, la plus complète, la plus riche, la plus emballante. Il nous a tout donné et il continue de le faire par l'Esprit qui agit en nous. Mais nous, en retour, est-ce que nous laissons le temps et ce que nous savons ou pensons savoir, simplement limiter ce que nous pouvons connaître du Seigneur, et est-ce que nous-mêmes nous avons botté en touche en disant « Ouais, j'en ai fait à peu près le tour maintenant, et puis j'attends simplement que le Seigneur revienne ou que je sois en sa présence à nouveau. » Et donc dans ce texte, moi ce que je trouve intéressant, c'est ces deux choses. La première, naturellement, c'est cette tristesse et cette déception de Jésus. Mais qui ne va pas jusqu'à juger Philippe en disant, tu sais, ben maintenant tu n'es plus mon copain, tu peux partir. Mais il lui dit simplement, Philippe, il y a tellement longtemps qu'on était ensemble, et je constate que tu ne me connais pas. Ça n'empêchera pas Philippe de revenir et de continuer à être un apôtre, et puis de faire de grandes choses après. Mais il y a aussi toutes ces réponses de Jésus, en fait, dans ce chapitre, où il dit, c'est en moi, dans ma relation, que vous allez non seulement trouver une réponse à vos questions purement rationnelles ou intellectuelles ou de préoccupations, mais c'est là où vous allez découvrir la vie. C'est là où vous allez connaître la vérité, même si vous ne savez pas écrire une encyclopédie comme Wikipédia. C'est là où vous allez découvrir ce qui va vous inspirer et vous conduire au moment des décisions dans votre propre vie. C'est là où vous allez découvrir une vie qui est abondante au-delà de ce que vous pouvez imaginer, qui fait que même dans les circonstances les plus difficiles, vous serez encore dans le contentement et dans la plénitude, comme nous l'a dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens. Alors, chers amis, nous avons à cœur dans le conseil de continuer à nous exhorter dans l'Église, que ce soit par nos prédications, ou par nos études ou par tout simplement notre vie, à ce qu'aucun d'entre nous, dans un sens, ne s'arrête à un moment ou à un autre et ne soit contenté de la situation dans laquelle il est, mais plutôt parte de l'a priori qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que le Seigneur veut nous donner dans sa parole, mais surtout dans la relation qu'il a avec nous. Et le Seigneur languit d'avoir cette relation. Et je me répéterai encore une fois, parce que c'est une anecdote qui me marque énormément, c'est à la fin de l'évangile de Jean, là où Jésus pose ses questions à Pierre après qu'il l'ait renié. Parce qu'encore une fois, comme je vous le dis, il n'y a rien que vous puissiez faire qui puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Mais où Jésus dit à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes ?» Non pas combien est-ce que tu as compris, non pas qu'est-ce que tu connais à mon sujet, non pas est-ce que j'ai raison ou pas raison, etc. Et tout. Il dit est-ce que tu m'aimes ? C'est la langueur du Seigneur de nous connaître tous individuellement, indépendamment et dans nos circonstances. Et surtout, que jamais nous ne laissions le temps simplement nous arrêter et nous faire ralentir en pensant que nous en avons fait le tour. Chers amis, le Dieu que nous avons chanté ce matin est un Dieu vivant qui nous a vivifiés, nous a donné la joie pour chanter. Ce Dieu est encore celui qui, même si vous avez connu le Seigneur pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, ou si vous êtes seulement au début, c'est celui qui te dit « J'ai énormément de choses à te faire découvrir dans la vie. » Et surtout, ce que j'ai à te faire découvrir, c'est l'amour que j'ai pour toi et l'amour que tu peux avoir pour moi. Et tu vas voir ce que tu vas voir. Chers amis, nous avons eu un moment de louange, je ne dirais pas extraordinaire, mais vraiment fabuleux ce matin, qui nous a rappelé en fait cet amour que le Seigneur a pour nous. Et le fait que c'est une personne, c'est quelqu'un qui veut être en relation avec nous. Mais là aussi nous avons un texte où les circonstances peuvent troubler l'esprit humain à tel point où on arrive à dire des bêtises et à faire marche arrière, comme l'ont fait Thomas et Philippe à un moment. Mais le Seigneur ne va pas nécessairement nous juger et nous rejeter pour autant, mais il est allé beaucoup plus loin en disant des paroles extrêmement fortes et complètes, qui dit, si tu veux des réponses à tes questions, si tu veux savoir où aller dans la vie, si tu veux connaître la vérité, c'est en moi que tu les trouveras. Chers amis, je vous invite à cultiver cette relation. Je vous invite à ce que nous nous exhortions les uns les autres à cultiver cette relation que nous avons avec le Seigneur. Et attendez-vous à ce que, certainement dans les prédications, des séries que nous ferons dans l'avenir, on fera tout pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous éduquer à non pas connaître davantage une quantité à propos du Seigneur, mais à connaître davantage le Seigneur lui-même. Alors encore une fois, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, ça passe quelquefois par comprendre des choses. Et un papa, c'est aussi un père. C'est aussi un père. Mais le but ultime, c'est que vous n'ayez pas simplement une quantité de connaissances à propos de Dieu, mais que vous connaissiez Dieu lui-même et que tous ensemble nous puissions chanter et prier notre Dieu et que vous puissiez chanter et prier mon Dieu. Amen.
Bonjour. Oups. C'est le moment des annonces. Alors, les annonces pour le programme de la semaine sont assez light cette semaine. Mercredi 21, commission bricolage pour le club d'été. Oui ? Ok, très bien. La commission bricolage, c'est à quel endroit ?
Chez
vous, donc chez Emmanuel et Rebecca. Samedi, le groupe de jeunes, dimanche, culte, donc ici. Sinon, les annonces pour les membres de l'Église ou les personnes qui participent à notre Église. Continuons de penser à Mike. La semaine passée, je vous disais qu'il restait encore environ 18 jours, donc environ maintenant une bonne dizaine de jours. Est-ce qu'il y a quelque chose à préciser, Jean-Paul ? Non ? Voilà, mercredi dans 10 jours, prions pour lui, pensons à lui. On s'est encore distribué les derniers petits billets pour lui écrire quelques lettres encore, tant qu'il est retenu. Prions aussi pour sa sortie, c'est important. C'est pas forcément quelque chose de très évident de sortir comme ça. Sinon, Guylaine, on vous a dit donc la semaine passée, Guylaine était tombée, elle devait être opérée, elle a été opérée d'un coude. Elle est rentrée vendredi, donc ils sont à la maison maintenant. Ça va bien, sauf qu'elle souffre encore passablement, donc continuons à penser à elle, à prier pour elle. Guylaine repart demain en clinique, c'était déjà prévu, donc pour faire des examens, pour rechercher pour quelle raison finalement est-ce qu'elle fait ces différentes chutes et pour quelle raison est-ce qu'elle a les troubles qu'elle connaît. Donc, pensons à elle aussi pour ce temps, elle reste encore jusqu'à jeudi. Ce qu'elle me disait qui est quand même important, on recommande de prier les uns pour les autres, elle me disait qu'elle se sentait vraiment portée et soutenue dans la prière, dans les prières que nous faisons pour elle et pour eux. Concernant Guylaine, il y a Dany qui a eu une bonne idée de lui écrire une lettre qui est au fond de la salle, et puis Dany propose que tous ceux qui le veulent puissent la signer. Voilà. Pensons aussi à Fernande. Fernande qui a été opérée d'une fracture à la main. Pensons vraiment à elle. C'est pas simple avec le grand âge de se retrouver comme ça, puis d'avoir un petit pépin de santé. Prions pour elle et pourquoi pas la contacter, la visiter. Abel a suivi des examens. On peut aussi penser à lui. Pierre-Alain me disait qu'il n'avait rien trouvé, mais il continue à chercher pour quelle raison il a des troubles au niveau de sa santé. On peut aussi penser à Liliane. Liliane qui a fait une chute cette semaine. Heureusement, rien de cassé, mais plein de petits coups de partout, notamment au visage. Donc, prions pour elle, remettons-la aussi à notre Dieu, à notre Papa, qui veille sur ses enfants, qui veut aussi l'encourager et l'accompagner jour après jour. Est-ce que j'aurais oublié des nouvelles ou quelque chose ? Oui, Lydia. Groupe d'ado, samedi prochain, à 5h, donc ici. Voilà. Emmanuel, tu veux faire ton annonce ?
Donc, le club d'été pour les enfants de 7 à 14 ans, c'est dans un mois et demi. Il nous manque encore des bénévoles. Il nous manque encore 3 moniteurs et 6 aides-moniteurs. Donc, si vous avez envie, si vous ne savez pas quoi faire du 14 au 18 juillet, si vous avez peur de vous ennuyer cet été, venez nous voir, on aura de l'occupation pour vous. La commission bricolage, donc ça sera chez nous mercredi à 20h30, c'est pour toutes les personnes qui veulent s'engager pour faire un atelier bricolage ou aider. Même si vous ne vous êtes pas encore inscrit, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus mercredi. On aura également une autre commission chez nous samedi 24 mai à 14h30 pour tous ceux qui veulent s'impliquer dans le sport. L'après-midi, les enfants leur font faire du sport, des activités sportives, et on va mettre en place le programme de sport. Donc, samedi 24 mai à 14h30. Si vous ne pouvez pas venir, mais que vous êtes quand même intéressé, dites-le nous, ça sera avec plaisir. J'ai rien oublié.
Oui, ce samedi.
Ah ben oui. Alors, hier, on a eu non pas le club d'été, mais le club d'enfants. C'était le dernier club d'enfants de cette année scolaire. Je me rappelle plus, il y avait une vingtaine d'enfants. Et c'est vrai que c'est très bien que tu le dises, parce que je voulais vraiment remercier le groupe de jeunes, parce que c'est le groupe de jeunes qui a fait la partie enseignement. Et franchement, c'était super et on a bien rigolé. Ils ont fait des ombres chinoises sur l'histoire de David. Et les jeunes, je veux vraiment vous remercier et vous encourager pour votre engagement. Je pense que aussi les enfants, ça les touche de voir des grands garçons, des grandes filles comme vous, qui s'engagent, qui peuvent leur parler du Seigneur comme ça. Donc vraiment merci à vous le groupe de jeunes, et puis un grand merci à tous ceux qui s'engagent tout au long de l'année pour le club d'enfants, et je pense aussi notamment aux personnes âgées. Je pense il y a beaucoup de personnes âgées qui ont à cœur le club d'enfants, qui mettent leur participation en priant pour ce club, et je peux vous dire c'est très très important, et on en voit les fruits. Et je vous donne juste une petite anecdote. C'est notre fille Audrey, elle, ça fait longtemps qu'elle invite une copine. Et puis là, le matin, elle m'a dit, tu sais, papa, j'ai vraiment prié cette fois pour qu'elle vienne. Et ben, elle était là. Je lui ai dit, merci Seigneur. Et je pense que c'est aussi des clins d'œil pour nous tous. Seigneur, réponds vraiment.
Amen. Je vous invite à vous lever. Oui. Ah oui, oui. Donc il y a prévu une après-midi de volley pour ceux qui veulent, à partir de 14h30 cet après-midi, donc ici juste à côté, pour essayer le nouveau filet de volley. Attention. Oui, Pierre.
Est-ce que tu peux dire de les nouvelles de Daniela, peut-être? Oui, tout va bien, elle revient demain.
Donc, je vous invite à vous lever pour vous partager les trois derniers versets du psaume 33. Nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.